Mi-août, mi-août, en l'espace de quelques jours, les flux ferroviaires s'inversent. Ce sont désormais les premiers blessés qui arrivent. Les flux ferroviaires s'inversent. La ville se couvre d'hôpitaux.
Une année qui a forcément une saveur particulière pour les historiens, notamment français et allemands. Un siècle après la bataille de Verdun et ses 700 000 morts, Cherchant en ville regarde une fois n'est pas coutume dans le rétroviseur. À l'époque, le maire de Rennes s'appelait Jean Janvier, il lisait probablement le quotidien Ouest Éclair. On lui doit une boucherie et une laiterie municipale ainsi qu'un potager sur les pelouses du Tabor. Une autre époque, vous dis-je, et pourtant la même ville. Rennes, durant la Grande Guerre, c'est l'arrière. L'arrière où l'on propage les mots M-O-T-S de la guerre dans les têtes des enfants. L'arrière où l'on soigne les mots M-A-U-X en provenance des combats qui sévissent à l'est de la France, dans les Vosges et la Lorraine. C'est à cette ville que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Alors qu'à Verdun, les commémorations sont entachées de polémiques sur fond de musique commerciale et qu'une école de Saône-et-Loire reconstitue le champ de bataille en jeux vidéo, remontons dans le temps, intéressons-nous à ces femmes, ces hommes, ces faits qui ont marqué l'histoire de notre ville. Et comme chaque mois dans Chercheurs en ville, on ajoute du recul au recul. Bienvenue à tous.
Chercheurs en ville, une émission proposée par Canal B en partenariat avec la Maison des sciences de l'homme en Bretagne et la Radio Université Bretagne Noire.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Chercheurs en ville. Notre invité du jour est Yann Lagadec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, maître de conférences à Rennes 2, vous avez notamment co-dirigé la rédaction d'Hommes et Femmes d'Ille-et-Vilaine dans La Grande Guerre, paru en 2014, et un autre livre, Charles Oberture, Lettres de guerre 1914-1918, est attendu dans les prochains jours. Vous serez interrogé par Xavier Daubentride. Bonjour Xavier.
Bonjour Renan, bonjour à tous.
Et Anne Kropotkine, bonjour Anne.
Bonjour à tous.
Pour la radio Université Bretagne-Loire, on salue Christian Lebar qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Xavier, c'est à vous.
Merci beaucoup Renan. Oui, effectivement, on a beaucoup de chance d'accueillir ce matin Yann Lagadec pour parler de ce qui s'est passé il y a 100 ans. C'était à la fois hier et ça paraît évidemment très lointain. Il se trouve que nous sommes en pleine commémoration et même en pleine polémique. Renan Lemoyer le rappelait à l'instant par rapport aux commémorations de Verdun. J'ai envie qu'on démarre avec cet élément d'actualité, cette question d'actualité Yann Lagadec. Fallait-il ou pas inviter un chanteur de rap pour célébrer les 100 ans de la bataille de Verdun ?
Vaste question. Je dirais que...
On sent déjà l'embarras de l'historien sur une question aussi directe et immédiate.
L'historien peut avoir une position et éventuellement le citoyen peut en avoir une autre sur le principe. L'historien, d'une certaine manière, n'a pas à prendre position sur ce type de choses.
Mais sur la manière dont on commémore il y a peut-être des choses à dire.
Il peut l'analyser et voir ce que l'on attend finalement, ce que la société attend des commémorations. Les commémorations, finalement, on s'en rend compte, c'est des 2-3 dernières années, ont globalement gardé une touche très, très classique, c'est-à-dire qu'on en reste à des commémorations marquées par des cérémonies militaires,
des dépôts de gerbes,
et tout ce qui va avec, des remises de décorations éventuellement, mais on a du mal, me semble-t-il, à s'ouvrir à d'autres formes de commémoration. Alors, j'exagère un peu, il y a eu en 2014 notamment, alors que ce soit d'ailleurs pour l'anniversaire de la libération, les 70 ans de la libération, ou pour le centième anniversaire de l'entrée en guerre en 1914, d'autres formes de commémoration qui se sont développées au cours de cette année 2014, y compris des formes artistiques très éloignées de ce qu'on
On peut citer par exemple un concert à l'Orchestre supérieur de Bretagne, Brotherly Arts.
Voilà, par exemple, et donc toute une série d'initiatives. Alors, je pense notamment à des artistes plasticiens qui ont proposé un certain nombre de choses aussi, y compris en Ille-et-Vilaine. Donc, des approches largement différentes de ce à quoi on s'attend en général, mais peut-être que dans le cas de Verdun, au regard du caractère un peu particulier de cette bataille dans la mémoire collective, notamment en France, peut-être que le public, dans sa globalité, l'opinion publique s'attendait à autre chose qu'un concert de rap.
Oui, ou même pas de concert du tout, quel que soit l'artiste en question, puisque là, on se focalise sur Black M, mais voilà. On a aussi entendu dire au cours de ces derniers jours que finalement, c'était même le principe même d'une espèce d'événement festif, joyeux, sur ce champ de ruines et ce cimetière à ciel ouvert qui était indécent d'une certaine manière.
Il y a effectivement les deux dimensions. Et il n'en reste pas moins qu'il me semble que, pour un certain nombre de personnes, le fait que ce soit en plus, d'une certaine manière, un concert de rap a été un élément supplémentaire dans le refus de ce type de commémoration.
Anne Kropotkin, peut-être une question sur la manière justement dont on peut réinventer les commémorations ou la mémoire, le travail de mémoire. Vous avez, avec une association Micro-Sillon, travaillé sur les sons de cette mémoire et c'est tout à fait intéressant de revisiter finalement ce que l'on pouvait imaginer, entendre à Rennes en 1914-18.
Oui, alors c'est un travail fait par l'association donc de création sonore et radiophonique Micro-Sillon en partenariat avec les archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Donc c'est une commande des archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Et donc on a travaillé sur des archives qui sont essentielles, qui sont écrites, puisqu'évidemment il n'y a pas de son de cette période-là. Et à partir des archives écrites, on a fait une création à peu près d'une demi-heure qui retrace la Grande Guerre du point de vue de l'Ille-et-Vilaine, donc de 1914 à 1918.
Je me déclarais entre les Provences en Allemagne, à la Belgique, à la Grande-Bretagne.
Première route 1914.
Mobilisation générale.
J'aimerais bien avoir le point de vue de l'historien qui est donc sur le plateau, Yann Agadec, sur cette création, puisqu'elle est Elle visait évidemment le grand public, elle a été diffusée lors des journées du patrimoine, etc. Ce n'est pas du tout un travail d'historien, même si on respecte évidemment le travail de l'historien, que c'est une source aussi, il y a un rapport aux archives qui n'est pas anodin. Donc j'aurais bien aimé avoir votre sentiment.
Eh bien on va l'avoir tout de suite, Yann Lagadec, votre avis là-dessus.
Oui, j'ai pu l'écouter ces derniers jours. L'initiative me semble intéressante et de manière globale, je voudrais ici rendre hommage aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine qui sont assez largement ouvertes à d'autres formes de transmission de l'histoire que celle auxquelles on est habitué dans ces services d'archives. Alors je pense notamment à toutes les expos qu'il y a régulièrement concernant la bande dessinée. Il y en avait eu une notamment touchant la Grande Guerre, mais il y a eu aussi d'autres thématiques. Dans les prochains jours, un Dog Games sera présenté au public.
Il faut peut-être expliquer ce que c'est.
Alors c'est je caricature, mais une sorte de jeu vidéo
mais pédagogique
qui permet de se replacer dans la peau d'un certain nombre d'acteurs originaires d'Ille-et-Vilaine pendant la Grande Guerre. Et donc c'est une démarche qui vise un public qui n'est pas celui qui est en général touché par les archives départementales de manière globale et en Ille-et-Vilaine entre autres. Et puis d'autres initiatives qui vont un peu dans le même sens. Donc cette initiative sonore de la fin de l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, c'était septembre 2015, alors me semble une autre manière justement de toucher des publics qu'on ne voit pas forcément aux archives, qu'on ne voit pas manipuler directement les documents et qui vont pouvoir s'imprégner d'une ambiance, effectivement, saisir un certain nombre de choses à travers cette création, alors qui reste avant tout une création artistique, avec tout ce que cela peut impliquer. C'est une interprétation, c'est une création. Je crois que c'est.
Et c'est revendiqué comme tel.
Et c'est revendiqué comme tel, bien entendu. Et donc c'est une forme de médiation qui me semble intéressante pour amener éventuellement les gens ensuite vers des choses plus traditionnelles, que ce soit les ouvrages publiés notamment par les archives départementales d'Ille-et-Vilaine ou d'autres ouvrages, bien évidemment.
Alors Yann Lagalec, vous venez de prononcer un mot important de médiation. Hein, c'est cette transmission finalement de la mémoire collective, et on sent bien un appétit aujourd'hui du grand public, et notamment des plus jeunes, pour cette mémoire ou cette histoire à hauteur d'homme. On retrouve la trace de la grande histoire et bien dans les rues de nos villes. Il y a un peu plus d'un an, nous avions ensemble coordonné un numéro de place publique sur justement Rennes, pendant la guerre 14-18, Rennes, ville de l'arrière. Et nous avions été à la recherche des traces, parfois très ténues, et parfois encore bien visible, bien de cette histoire, à travers des bâtiments qui avaient connu des destinations pour un hôpital ou pour de la fabrication d'armement à l'arsenal. Et finalement, ça donnait à voir une lecture de la cartographie urbaine que nous connaissions bien, avec justement cette projection dans le temps, et c'était tout à fait intéressant. Cette manière de faire l'histoire, elle est en train de se développer, j'ai l'impression.
Oui, et ça me semble important, effectivement, de se replacer à hauteur d'homme. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'histoire de la Grande Guerre a été une histoire centrée sur finalement les grandes phases de l'histoire militaire, tenant assez peu compte finalement des hommes qui vivaient cette Grande Guerre, et en réintroduisant d'une part l'arrière et la vie notamment des civils, hein, qui malgré tout sont majoritaires en France au cours de cette période, bien évidemment. La Grande Guerre va mobiliser de l'ordre de 8 millions de soldats en France, ça veut dire qu'il y a 32 millions de civils qui vivent cette Grande Guerre d'une autre
et
qui la subissent aussi. Donc en réintroduisant les civils, en étudiant les militaires eux-mêmes, les combattants au ras du sol, hein, en se posant les questions. Alors ce sont tous
la vie quotidienne, série, voilà, dans la vie quotidienne
des soldats dans les tranchées. Alors ce sont toute une série de débats historiographiques des 15-20 dernières années, alors qui ne sont pas toujours tranchés d'ailleurs, qui sont parfois toujours assez vifs, mais qui ont permis de faire progresser la recherche et d'intégrer justement l'individu, l'expérience de la guerre au sens très large du terme, expérience des civils comme expérience des combattants, pour essayer de saisir un certain nombre de réalités de manière différente.
Alors il y a un outil qui permet justement, j'allais dire, de pénétrer cette intimité, ou tout du moins de l'approcher, ce sont les courriers. On s'écrit énormément pendant la Grande Guerre, ce sont des millions de missives qui sont envoyées du front vers l'arrière, et alors la censure est passée par là, Anastasie et ses grands couteaux et ses grands ciseaux veillaient au grain tout de même, mais on a quand même là, pour les historiens que vous êtes, un matériau tout à fait extraordinaire pour comprendre à la fois, comme on dit, le moral des troupes, et puis aussi la situation matérielle et morale des combattants. Il se trouve que vous allez publier, ça a été dit au début de cette émission, un ouvrage à partir des lettres de guerre de Charles Oberture. C'est un nom évidemment très connu ici à Rennes, puisque on ne peut pas ne pas l'associer à l'imprimerie qu'il avait fondée. Et ce Charles Oberture, qui est un jeune officier, hein, sous-officier.
Non,
vous allez être plus précis.
Voilà, il est officier, mais plus si jeune que ça, parce qu'en fait, il est déjà un homme bien installé. Hein, là, il a 42 ou 43 ans au moment de la mobilisation. Il a été officier de réserve. Il a démissionné de sa position d'officier de réserve avant guerre parce qu'il ne pouvait plus mener de front ses activités d'officier de réserve
et la
direction des imprimeries Oberture, hein, qui constituent un gros établissement industriel rennais, hein. C'est plus de 1000 employés, c'est de l'ordre de 1000 employés au moment de l'entrée en guerre. Et finalement, le 1er ou le 2 août 1914, à l'annonce de la mobilisation, il n'est pas directement concerné, si ce n'est en tant que patron, et il va se porter volontaire, il va s'engager.
Le patriotisme
Le patriotisme prend le dessus, et finalement, au bout de quelques heures, de quelques jours, il est réintégré dans son ancien grade, alors de manière provisoire, en attendant une décision qu'on espère venir un jour du ministère de la guerre de l'époque. Et donc il part sur le front début août 1914 comme officier d'artillerie, donc au 7e régiment d'artillerie de campagne de Rennes, qui est l'un des régiments qui part de Rennes dans la première quinzaine du mois d'août 1914. Et ensuite, donc, il fait toute la guerre comme commandant d'une section de munitions d'artillerie. Donc c'est ces sections qui sont chargées d'apporter les obus de l'arrière-front vers les batteries d'artillerie, et ce qui va le mener à Charleroi le 22 août 1914, sur la Marne en septembre 1914, en Artois ensuite juste pendant une bonne partie de l'année 1915, il sera en Argonne, à Verdun. Il y a presque 100 ans, jour pour jour. puisqu'il y arrive vers le 20 juin, ou un peu plus tard, vers le 25-26 juin 1916. Il y passe quelques semaines, et puis ensuite, ça sera la Champagne, entre autres, les Monts de Champagne en 1917, ou les combats autour de Villers-Cotterêts, ou sur la Marne, pendant la seconde bataille de la Marne en juillet 1918, avant de finir, ce qui est important pour lui au regard de ses origines alsaciennes, participer à l'entrée des troupes françaises à Strasbourg le 22 novembre 1918, hein, une dizaine de jours après l'armistice.
Et donc il a vraiment fait toute la guerre, hein, vous venez d'en rappeler les grandes étapes, mais il a quand même le temps d'écrire et même de dessiner, ouais. et de garder ce lien avec sa famille, avec son ancrage rennais. Que nous disent ces lettres? Quelle est la tonalité avec laquelle il s'exprime?
Alors, ce sont des lettres, celles qui ont été conservées, donc l'on publie avec Bernard Corbet. Hein, c'est un travail fait avec Bernard Corbet, qui est colonel en retraite de l'armée de terre et par ailleurs étudiant à Rennes 2, puisqu'il prépare un Master 2 sur Charles Berthure pendant la Grande Guerre. Donc, ces lettres ne constituent qu'une partie de sa correspondance. Ce sont principalement les lettres qu'il a envoyées à ses parents. On sait qu'il écrivait tous les deux jours environ chez lui. Les lettres qu'il a envoyées à son épouse ont été perdues. Ou en tout cas, elles n'ont pas été transmises. Elles ne nous sont pas parvenues. Et là, on a un corpus de l'ordre de 260 lettres.
C'est très descriptif.
C'est très variable en fait en fonction des moments. Alors il y a toute une série de dimensions descriptives. Alors y compris sur les conditions de vie, bien entendu, la boue, la pluie. Hein, l'une des principales entrées. Hein, on s'est amusé entre guillemets à indexer les grandes thématiques. Hein, le sujet dont il parle le plus, c'est la météo.
Mmh. Ça conditionne beaucoup de choses.
Ça conditionne beaucoup de choses. Alors même qu'il est, lui, dans une position plutôt favorable, en tant qu'officier dirigeant une section de munitions, il est un peu à l'arrière et pas directement dans les tranchées. Il est logé, en général, chez l'habitant, ce qui n'est pas le cas forcément de ses hommes. Donc il est dans une chambre, dans un lit, très régulièrement, voire le plus souvent, et non pas sous tente.
Ça reste un grand bourgeois.
Donc ça reste d'une certaine manière un grand bourgeois au front, parce que sa position d'officier et d'officier d'une section de munitions le lui permet. Mais ses camarades qui sont capitaine ou lieutenant d'infanterie au 41e régiment d'infanterie de Rennes par exemple,
il a gardé des liens avec eux,
on voit comment se retissent les solidarités rennaises autour de réseaux, alors qui sont des réseaux d'amitié antérieurs à la guerre, qui sont des réseaux politiques pour une part, qui sont des réseaux liés à la fréquentation de Saint-Vincent, par exemple.
Le lycée, transformé en hôpital militaire
à l'époque. Donc, on voit comment ces solidarités rennaises se retissent sur le front et comment, justement, les lettres vont permettre de faire passer un certain nombre de nouvelles aux proches et aux familles des amis, en disant, ben voilà, j'ai croisé un tel, tu peux dire à son épouse qu'il va bien, ou en utilisant les permissionnaires qui vont ramener du front vers l'arrière un certain nombre d'objets dont on n'a plus besoin. La saison change, on n'a plus besoin des grosses chaussettes, on n'a plus besoin du duvet, on n'a plus besoin d'un certain nombre de choses. Donc on les fait ramener vers l'arrière par ces permissionnaires. Et dans l'autre sens, ces permissionnaires qui reviennent de l'arrière vers le front vont ramener du beurre.
Très important le beurre. Demi-sel.
Pour Charles Berthure, comme pour un certain nombre de combattants bretons, mais aussi des vêtements, des cadeaux éventuellement. Alors, il se fait envoyer, par exemple, chaque année, des almanachs au Berthure pour les distribuer à ses hommes.
Et, il fait un peu de publicité en même temps.
Et c'est un cadeau qui semble être apprécié par tout le monde, ses camarades officiers. Comme par ses hommes, il dit bien dans ses premières lettres dès l'automne 1914, hein, il pense à la future campagne d'impression des almanachs 1915, et il dit bien comment ces objets sont devenus tout à fait essentiels et dans les foyers qu'il côtoie en Artois à ce moment-là, dans la région d'Arras, à partir du mois d'octobre 1914, comme pour les officiers qui d'ailleurs y trouvent des cartes. Il y a des cartes départementales hein, dans les almanachs comme aujourd'hui dans les calendriers des postes et à défaut de cartes d'état-major pouvoir s'appuyer sur ces cartes qu'on trouve dans les calendriers ouverture ou dans les almanachs ouverture est un aspect tout à fait essentiel pour les officiers. Donc voilà, l'entreprise on la gère aussi
à distance
depuis le front.
Alors justement, Anne Kropotkine.
Oui, vous disiez justement que vous n'aviez pas les lettres de son épouse. Or, parfois, on a les lettres d'une épouse qui est Armandine Ledoirec, que vous avez lu cette correspondance donc d'Armandine Ledoirec, et plutôt des lettres d'amour donc à son.
Même enflammée, je crois, pour certaines d'entre elles. Hein.
Complètement enflammée. Est-ce que vous avez lu toute cette correspondance? Qu'est-ce que vous en avez retiré?
Alors, je n'ai pas lu malheureusement toute cette correspondance. Elle est conservée par Jean-Paul Dumont-Ledoirec, hein, qui est le petit-fils d'Armand et Armandine. Ledoirec. Alors Armand Ledoirec était un avoué avocat rennais.
C'est une famille politique.
Dans l'entre-deux-guerres, il sera élu député d'Ille-et-Vilaine, effectivement. Et tout au long de la guerre, il va écrire chaque jour une lettre à son épouse. Elles ont toutes été conservées. Et son épouse, elle aussi, écrira chaque jour. Alors, le problème des lettres d'Armand, c'est qu'il a une écriture telle qu'elles sont
difficilement déchiffrables.
Pour un certain nombre d'entre elles, mais quand on arrive à les déchiffrer, elles sont vraiment passionnantes. Alors, ce qui vient compliquer la lecture en plus, c'est que souvent les lettres d'Armandine sont reprises directement sur le support envoyé par Armandine entre les lignes par Armand. Donc il y a plusieurs couches successives sur le même courrier, donc le déchiffrage devient extrêmement compliqué. Et en revanche, les lettres d'Armandine ont été pour une part publiées donc par Jean-Paul Dumont-Ledoirec. Elles sont effectivement passionnantes, mais là aussi, on a une masse tout à fait considérable. Quatre années de guerre, 52 mois de guerre, ça fait de l'ordre de 1500 lettres au total. Armand se limitait à 4 pages d'écriture quotidienne. Armandine n'avait pas de limite. Donc ça donne des lettres d'une douzaine de pages parfois qui mériteraient d'être entièrement publiées et étudiées, mais c'est un travail tout à fait considérable.
Mon petit fou, à ta prochaine permission, tu seras rassasié d'amour.
Tu seras rassasié d'amour.
Alors si on quitte le champ des correspondances peut-être et qu'on revient à une analyse peut-être plus historique en tout cas pour laquelle vous êtes spécialiste, c'est l'approche de la Grande Guerre par le fait régional puisque vous êtes un de ceux qui ont remis en cause les chiffres, notamment les morts bretons pendant la guerre qui a été une polémique pendant de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Il y a une plaque dans la cour des Invalides avec un chiffre qui fait polémique.
Voilà, alors qui à mon avis ne devrait plus faire polémique puisque en fait, dès les années 1930, un certain nombre de chercheurs s'étaient mis d'accord sur le fait que, il y avait un consensus globalement sur le fait qu'il y a de l'ordre de 140 000 morts à l'échelle des 5 départements bretons. Alors, ce qui fait déjà avec ces 130 à 140 000 morts de la Bretagne historique, l'une des régions les plus touchées par rapport à sa population d'avant-guerre. Hein. On a pris l'habitude de faire des calculs par rapport au dernier recensement qui est celui de 1911. Hein, qui permet de comparer finalement les départements à l'échelle de la France. Donc la Bretagne est l'une des zones les plus touchées. Ça n'est pas forcément la plus touchée. Hein. Les deux premiers départements, ce sont la Lozère et la Mayenne. Mais en fait, la Lozère comme la Mayenne ont des structures démographiques, des structures sociales qui sont assez proches de celles de la Bretagne, des départements plutôt ruraux. des départements dans lesquels le taux de fécondité est resté tardivement relativement élevé, et donc on a continué à faire beaucoup d'enfants jusque dans les années 1890, alors que à l'échelle nationale ce taux de fécondité avait commencé à baisser dès les années 1860-1870.
Donc les classes appelées sur les drapeaux étaient
donc les classes appelées sous les drapeaux en Bretagne, mais aussi dans les Landes par exemple, mais aussi donc en Lozère, dans toute une partie de l'ouest de la France, étaient plus nombreuses dans ces départements-là, et donc proportionnellement plus touchés aussi.
Oui, petite parenthèse, je crois qu'on différencie aussi ceux qui sont nés en Bretagne de ceux qui sont voilà, des soldats engagés, mais d'émigration.
Oui, alors là, la chose est...
Là, ça se complique.
Ça se complique parce qu'il est difficile, au regard des données dont on dispose, d'intégrer de manière fiable et satisfaisante à l'échelle du pays ces gens qui viendraient de l'extérieur. Donc la plupart des calculs se font à partir des gens qui sont nés dans un endroit, quel que soit cet endroit finalement, hein, que ce soit le Lot, les Basses-Pyrénées de l'époque, les Landes ou la Côte d'Or, on part des gens qui sont nés parce que ce sont les données les plus directement accessibles et à partir desquelles on va pouvoir faire des calculs qui sont relativement fiables. Donc il y a un consensus des historiens sur ce chiffre des 130 à 140 000 morts. La plaque des Invalides annonce 240 000 morts.
C'est 100 000 de plus.
100 000 de plus, donc ce qui n'a aucun rapport avec la réalité. Ce chiffre de 240 000 morts, on le trouvait déjà à Sainte-Anne-d'Auray quelques années plus tôt, avant l'installation de cette plaque aux Invalides en 1934. Et en fait,
c'est un chiffre politique.
C'est un chiffre politique qui a été qu'on voit gonflé progressivement dans les années 1920 et au début des années 1930, alors dans des milieux très différents, hein, c'est bien l'Ouest éclair qui va participer à ce gonflement des chiffres que des publications régionalistes voire autonomistes ou nationalistes bretonnes, avec des objectifs qui sont totalement différents, hein. Montrer finalement que la Bretagne est bien intégrée à la France, elle a participé à l'effort de guerre français, c'est plutôt l'Ouest éclair, mais aussi le camp républicain, gauche y compris à cette période-là, et de l'autre côté des autonomistes, nationalistes qui insistent plutôt sur la manière dont les Bretons ont été sacrifiés par la France au cours de cette période.
Yann Lagadec, nous vous retrouvons dans quelques instants pour continuer d'évoquer avec vous cette mémoire de la Grande Guerre à Rennes et en Bretagne. Mais avant cela, nous écoutons Pour un oui, pour un non de Bertrand Belin.
Ils vont se voler, ils vont se voler dans les plumes. Ils vont se voler, ils vont se voler dans les plumes. Oh, oh, oh. Pour un oui, pour un non, pour un oui, pour un non. À qui les mains dans ce buisson d'imbéciles? À qui sont les mains dans ce buisson d'imbéciles? Pourquoi se battent-ils au bord d'un chemin? Dans le couchant, les ombres s'allongent. Dans le couchant, l'ombre hameau de la Rix aussi. Pour un oui, pour un non, pour un oui, pour un non, à qui les mains dans ce buisson d'imbéciles, à qui sont les mains dans ce buisson d'imbéciles, pourquoi se battent-ils au bord d'un chemin? Animal, viscéral, vicinal, communal, national, international. Pourquoi se battent-ils au bord d'un chemin?
C'était Bertrand Belin à l'instant dans Chercheur en ville. Merci d'être à l'écoute de Canal B ou de la Radio Université Bretagne-Loire. Nous faisons ce mois-ci un bond de 100 ans en arrière. On s'intéresse en effet à la guerre 14-18 à l'occasion des commémorations de la bataille de Verdun et de ses 300 000 morts et non 700 000 comme je le disais en introduction. Dans la première partie d'émission, nous nous sommes focalisés sur les façons de se souvenir de cette époque, les correspondances de Charles Berture et le travail des archives par exemple, nous aide à imaginer l'atmosphère, tout comme d'ailleurs les créations radiophoniques du collectif rennais Microsillon qui habille cette émission. À présent, intéressons-nous à Rennes, la ville de l'arrière, celle qui participe à l'effort de guerre et qui soigne les blessés. Une ville-hôpital, eh bien on posera la question à notre invité Yann Lagadec, historien, maître de conférences à Rennes 2. Il répond aux questions de Xavier de Bantride et Anne Kropotkine. À vous Xavier.
Yann Lagadec, historien spécialiste de la Grande Guerre et en particulier de la situation à Rennes. Lorsque l'on s'intéresse à cette période et que l'on en cherche les traces dans la ville, il y a un lieu emblématique auquel on pense, c'est la gare. La gare de Rennes qui est névralgique pour les mouvements à la fois de troupes vers le front et puis des blessés qui viennent à l'hôpital se faire soigner à l'arrière. Il se passe vraiment des choses très fortes dans cette gare de Rennes.
Oui, la gare devient dans un certain nombre de villes, et notamment dans toutes les grandes villes, hein, le cœur de l'animation de cette ville pendant la guerre. D'une part parce que les mobilisés, le 1er, le 2, le 3 août 1914, prennent le train pour rejoindre leur ville de garnison, et ça n'est pas forcément Rennes pour les Rennais, hein. Certains partent et parfois très loin en fonction de leur affectation. Ensuite de cette gare que vont partir les régiments qui ont été mobilisés à Rennes, hein, et je rappelle qu'à l'époque ce sont 6 régiments qui vont partir de Rennes, hein. Il y a 3 régiments d'infanterie, 2 régiments d'artillerie et un régiment de cavalerie qui embarquent en l'espace de quelques jours depuis Rennes en direction du front et notamment des Ardennes dans la première semaine, à la fin de la première semaine du mois d'août 1914. Et très rapidement, effectivement, ce sont les blessés militaires qui sont rapatriés du front vers l'arrière pour être soignés. Ce sont les réfugiés, notamment les réfugiés belges, qui arrivent aussi fin août 1914 avec ce hasard total, mais qui me semble intéressant de signaler, c'est que une bonne partie de ces réfugiés belges qui arrivent en Ille-et-Vilaine, et pour une part dans les côtes du nord de l'époque, viennent en fait de la région de Charleroi, là où les régiments rennais ont combattu quelques jours plus tôt. Et puis dans le même temps, même si les masses concernées ne sont pas les mêmes, ce sont aussi des prisonniers allemands qui arrivent dès mi-août 1914 et de manière de plus en plus nombreuse, alors à partir du début du mois de septembre avec la bataille de la Marne entre autres.
Évidemment, la gare va changer de visage au fur et à mesure de la guerre qui s'installe. C'est devient une gare militarisée. Et pour les civils, pour les Rennais, qu'est-ce que ça va changer?
Alors pour les civils, ce qui change dans un premier temps, c'est le fait effectivement qu'une bonne partie des trains civils sont supprimés dans les premiers jours du mois d'août. La priorité est donnée de manière assez logique à la circulation militaire. Donc il y a très peu de place dans les quelques derniers trains du 1er août, 2 août 1914. Et on voit notamment, alors pas directement à Rennes, même s'ils vont finir par transiter par Rennes, toute une série de touristes qui étaient présents sur la côte bretonne fin juillet, début août 1914, se précipiter vers les gares pour essayer de regagner Paris, entre autres, avant que cette circulation civile ne soit interrompue pendant quelques jours. Alors cette gare va se transformer aussi, se militariser avec l'installation d'un pouvoir militaire, d'une autorité militaire à la gare. La particularité à Rennes, c'est que c'est un certain Jean Janvier, maire de Rennes, qui est en tant qu'officier de réserve chargé de l'organisation du transit dans la gare de Rennes.
On dirait aujourd'hui que c'est le logisticien en chef.
Tout à fait, c'est cela. Et entouré d'un petit état-major, de réservistes aussi, il s'y est préparé pendant un certain nombre d'années. Hein. Il le raconte notamment dans ses souvenirs qui ont été publiés il y a quelques années aux presses universitaires de Rennes et qui décrivent entre autres ces premiers jours de la guerre. C'est l'installation aussi de toute une série de services au profit des réfugiés dans un premier temps, mais dont vont profiter de plus en plus les militaires, des sociétés de secours diverses et variées qui vont créer, alors que ce soit à Rennes ou ailleurs, hein, on retrouverait la même chose à Vitré ou dans d'autres gares du départ. Dans la plupart des grandes villes de l'Ouest et de Bretagne, entre autres, des cantines qui vont permettre d'accueillir les permissionnaires qui transitent par ces gares aussi de manière importante. Alors, à partir de juillet 1915, hein, puisque jusque début juillet 1915, le système de permission n'existe pas, sauf pour les convalescents, cas un peu particulier, mais les soldats qui sont sur le front restent sur le front jusqu'à cet été 1915. Et à partir de l'été 1915, donc les flux entre le front et l'arrière vont prendre une nouvelle ampleur du fait de ces mouvements des permissionnaires.
Alors je rappelle quand même pour nos auditeurs que vous avez signé dans le numéro 30 de Place Publique paru en juillet-août 2014 un article très très fouillé, hein, justement sur le rôle de la gare à Rennes pendant cette période, et on retrouve développer les anecdotes que vous venez de partager à notre micro.
29 novembre 1917. Concours de rééducation agricole des mutilés de guerre.
21 amputés et 3 mutilés. À la fourche, à la faux, à la bêche, au labour, au brabant, au sillage de bois et au tracteur agricole.
Il a ainsi été donné la preuve que pour nombre de travaux qui s'exécutent sur la ferme, les mutilés de l'avant-bras, et même du bras, retrouvent la presque totalité de leurs moyens primitifs s'ils sont munis de bons appareils de prothèses bien adaptés.
Les flux, ce sont aussi les blessés, et le paysage urbain est aussi très marqué par tous ces bâtiments qui se transforment en hôpitaux. Est-ce que Rennes est une ville particulièrement fournie en hôpitaux, ou c'est quelque chose qui touche toutes les villes, les grandes villes de France?
Alors ça touche toutes les grandes villes de l'arrière, hein, parce que la masse des blessés est telle que les hôpitaux militaires tels qu'ils existaient avant la mobilisation ne suffisent plus très, très rapidement, d'autant que ces blessés français, il faut ajouter aussi les blessés militaires allemands, prisonniers qu'il faut soigner et qui sont soignés dans des conditions tout à fait comparables. Donc Rennes va se couvrir d'hôpitaux, et cela va passer notamment par la réquisition d'un certain nombre d'édifices publics. Alors ce sont principalement des établissements d'enseignement. Alors c'est le lycée des garçons, hein, l'actuel lycée Zola, qui est directement concerné. Ça devient d'ailleurs l'hôpital complémentaire numéro 1 de Rennes. Mais c'est aussi la faculté de droit, par exemple. C'est Saint-Vincent, on l'a dit tout à l'heure. Ce sont les locaux du Cercle Paul Bert, rue de Paris, qui sont aussi concernés. Et un certain nombre de bâtiments privés sont aussi utilisés, alors souvent sur proposition des propriétaires, alors qui parfois s'en méfient d'ailleurs. Hein, on en revient à la famille Auberture. On a une lettre de Madame Auberture, donc l'épouse de Charles Auberture, qui écrit à ses beaux-parents de mettre à la disposition de réfugiés qu'ils connaissent, famille d'industriels du nord de la France qui sont réfugiés à Rennes, de mettre à la disposition leur maison située à Rennes pendant qu'elle est à Cancale. Ça permettra d'éviter que le bâtiment soit réquisitionné pour y loger des blessés. Donc il y a aussi ce type de réaction au cours de cette période. Mais effectivement, il y a une densité de structures de soins qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que l'on connaît, qui concerne Rennes, mais qui concerne en fait des dizaines de localités à l'échelle du département. Toutes les villes de garnison sont concernées, hein, Saint-Malo, Vitré, Fougères, mais aussi des bourgades, des chefs-lieux de canton de moindre importance, souvent avec cette particularité malgré tout d'avoir soit des structures d'accueil qui existaient préalablement, c'est notamment sur la côte, les hôtels qui vont être transformés en hôpitaux, alors à Dinard, à Saint-Lunaire, à Paramé, etc. etc. Et puis ailleurs, le fait d'être situé sur une ligne de chemin de fer, parce qu'on n'imagine pas de transporter en ambulance, en voiture, en automobile, ces blessés sur de longues distances. Donc tous ces hôpitaux, aussi modestes soient-ils, sont situés sur les nombreuses voies de chemin de fer qui existent à l'époque, avec notamment ce qu'on appelait les transports d'Ille-et-Vilaine. Hein, les TIV, ces petits trains qui sillonnaient l'ensemble du département.
Il y a aussi un lieu qu'il est peut-être intéressant de mentionner, c'est cette fameuse école des mutilés de guerre qui dès 1916 hein, va s'installer à Rennes pour tenter de faire de la rééducation, comme on dirait aujourd'hui, à travers parfois d'ailleurs des expérimentations un peu incroyables. On avait publié toujours ce numéro de Place Publique des photos où on voit effectivement des gueules cassées, hein, comme on dit, avec des appareillages censés leur permettre de travailler dans les champs, par exemple.
Voilà, entre autres, oui. Donc c'est un élément important qui est pris en compte par l'État français à partir de 1915-1916. Hein. La particularité de la Première Guerre mondiale, c'est qu'elle produit beaucoup plus de blessés et de mutilés que les guerres précédentes, parce que le paradoxe, c'est qu'on soigne mieux, on survit mieux à ces combats de la Grande Guerre que lors des conflits précédents. Et donc, ces mutilés qui survivent et qui sont souvent gravement mutilés du fait même aussi, et c'est le paradoxe, hein, de l'efficacité meurtrière ou pas meurtrière, d'ailleurs, de la capacité des armes à mutiler, et notamment l'artillerie, il va falloir donc les réinsérer. Donc très tôt, on va essayer de trouver des moyens de leur apprendre soit de nouvelles professions. Alors, ça n'est pas à Rennes, mais à Nantes, par exemple, il y a une école de sabotiers qui va être mise en place pour ces mutilés. Et puis à Rennes, donc, il sera possible à ces mutilés d'apprendre toute une série de nouveaux métiers. Alors, on développe toute une série d'appareillages. Hein. C'est le début de la massification finalement de l'utilisation des prothèses diverses et variées. C'est l'école d'agriculture, hein, qui était située au même endroit qu'actuellement.
Rue de Saint-Brieuc.
Voilà, rue de Saint-Brieuc, dans un endroit qui, à l'époque, est en pleine campagne. Hein. Il faut pas l'oublier, où l'on va essayer, tester toute une série de prothèses qui permettent à ces mutilés de bêcher, de continuer à bêcher, de continuer à labourer aussi avec toute une série d'instruments adaptés. Bon,
ça marchera pas vraiment, hein.
C'est pas trop ce que ça devient par la suite, mais voilà, il y a cette volonté, en tout cas affichée par l'État, entre autres, parce que ça donne lieu à toute une série de reportages de la part de la section photographique et cinématographique des armées à l'époque, ce qui nous a permis de récupérer toute une série de clichés. Il y a même des films d'ailleurs sur cet épisode, mais pas de son, effectivement, qui permettent de suivre ces tentatives qui sont menées à Rennes comme ailleurs d'ailleurs.
Semer des pommes de terre pour les soldats, pour la France.
Encore l'effort, toujours l'effort, 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 encore l'effort,
l'effort,
encore l'effort.
J'avais envie de poser quelques questions sur l'effort de guerre, sur les réquisitions, sur aussi la politique de Jean Janvier. Hein, parce qu'on parle des patates de Jean Janvier, alors est-ce que... Planté au tabord, voilà. Qu'en est-il de l'effort de guerre à Rennes?
Alors l'effort de guerre à Rennes, il est finalement assez proche de celui qu'on peut trouver dans la plupart des autres villes de France. La particularité sans doute à Rennes est la politique mise en œuvre par Jean Janvier. Là, c'est lié à une personnalité. Alors, on en trouverait des déclinaisons assez similaires à Nantes, entre autres, ou ailleurs dans un certain nombre de grandes villes. Moi, j'avais parlé d'une sorte de socialisme municipal, bien que Jean Janvier n'ait pas été socialiste. L'idée, ou de municipalisme de guerre, l'idée, c'est effectivement de faire prendre en charge par la ville, par la municipalité, toute une série de fonctions qui relèvent du secteur privé en temps normal, mais qui, dans le cadre d'une guerre avec les phénomènes de spéculation qui commencent dès le début du mois d'août 1914 et qui sont dénoncés à Rennes par l'Ouest Éclair, par exemple, à Vitré par le maire, essayer d'éviter que les prix augmentent dans des proportions qui rendent un certain nombre de biens de première nécessité inabordables pour la plus grande partie de la population. Donc Jean Janvier va municipaliser un certain nombre de services. Alors il y aura une boulangerie municipale, il y aura des boucheries municipales, il y aura du charbon municipal. L'avantage, c'est que cela permet d'acheter en grande quantité, notamment le charbon, d'avoir des prix plus intéressants que les marchands privés, et donc d'offrir à la population des prix relativement contrôlés, alors que ce soit pour le charbon, pour le pain, les fameuses patates municipales de Jean Janvier, cultivées dans le Tabor, entre autres, le sont par les employés municipaux sur leur temps de loisirs. En échange, ils récupèrent une partie de leur récolte, et le reste va être utilisé dans les écoles, va être utilisé pour les secours aux nécessiteux, pour la cantine qui est installée pour les permissionnaires et pour les réfugiés en gare de Rennes, et les surplus vont être vendus, ce qui fait que tout au long de la guerre, les budgets municipaux de Rennes sont bénéficiaires, ce qui mérite d'être noté, parce qu'ils étaient déficitaires avant-guerre, notamment du fait des travaux d'aménagement qui avaient été engagés par la municipalité qui avait précédé la municipalité Janvier.
Alors, nourrir les populations, mais aussi alimenter les militaires à travers un autre effort de guerre, celui de l'armement avec l'arsenal de la Courrouze. On y produit en quantité vraiment industrielle des obus que l'on fabrique et que l'on recycle d'une certaine manière aussi. C'est une activité tout à fait considérable qui emploie énormément de monde et notamment des femmes au plus fort du conflit mondial.
Voilà, alors c'est l'une des particularités de Rennes, celle d'accueillir cet arsenal, alors qui est antérieur à la guerre, mais qui va prendre une nouvelle ampleur à Rennes, comme à Brest, comme à Lorient d'ailleurs, où l'on voit ces activités industrielles se développer du fait de la guerre. Le point important, vous l'avez dit, c'est la place tenue par les femmes
fameuses munitionnettes, ainsi qu'on les appelle.
Voilà, qui vont jouer un rôle important et qui tiennent une place numériquement importante. C'est à certains moments plus de 50% des effectifs, plusieurs milliers de femmes qui sont employées dans ces usines d'armement, alors qu'ils seront d'ailleurs licenciés très rapidement à partir de novembre 1918, une fois l'armistice signé, et en l'espace de quelques mois, donc la plupart seront renvoyés dans leur foyer entre guillemets. Donc on a su profiter de leurs compétences pendant la guerre et de leur présence, et ensuite donc on en revient à une situation qui est très proche de celle de l'avant-guerre. Mais effectivement, cet effort industriel est tout à fait considérable ici à Rennes autour de cette production d'armement, mais il y a aussi toute une série d'ateliers de confection qui joue un rôle important dans la fabrication des uniformes. À Fougères ou à Vitré, le rôle du secteur de la chaussure est tout à fait essentiel. Et donc, la guerre va permettre aussi à toute une série de secteurs industriels, soit de retrouver une nouvelle jeunesse alors qu'ils étaient en difficulté avant-guerre, soit d'apparaître et de se développer parfois de manière durable. même si la chose là est plus exceptionnelle.
15 juin 1917, arsenal de la Courrouze, manifestation des munitionnettes.
Nous arrivons presque au terme de cette émission. Une question qui revient finalement sur le travail de mémoire et les traces qui restent aujourd'hui en ce début de 21e siècle de cette période. On a tous, alors tous les témoins directs ont disparu, mais chaque famille française conserve dans ses armoires les médailles de l'arrière-grand-père ou les lettres du poilu envoyé du front. Cette mémoire sensible, c'est ça qui reste aujourd'hui le plus?
Oui, je pense que finalement c'est ce qui reste le plus. Alors notamment dans un département de la arrière comme celui de l'Ille-et-Vilaine. Il y a bien les monuments aux morts, mais finalement...
On n'y va pas souvent.
On n'y va pas souvent et la particularité du monument aux morts de Rennes, hein, c'est qu'il est enserré dans l'hôtel de ville. Il n'est pas directement accessible.
Le fameux Panthéon.
Le fameux Panthéon rennais, dû à l'initiative, entre autres, de Jean Janvier, une nouvelle fois. Donc, il n'est pas directement visible dans l'espace public. Il y a un effort à produire pour...
Mais cela dit, ça vaut le coup d'aller le voir.
Ça vaut le coup.
C'est quand même un lieu très impressionnant.
Tout à fait. Avec les peintures de Camille Godet et les fresques de Camille Godet qui sont particulièrement intéressantes
à découvrir,
me semble-t-il. Mais donc ce qui reste finalement pour la plupart des familles, c'est effectivement ces quelques souvenirs qui ont été conservés et qui sont de plus en plus réappropriés. Hein. Le hasard fait que j'étais hier dans les Côtes d'Armor pour photographier les carnets d'un ancien aumônier du 71e régiment d'infanterie qui était le régiment de Saint-Brieuc et la personne qui les conserve aujourd'hui, qui est le petit-neveu de ce prêtre, disait tout l'attachement encore qu'il y avait dans la famille à ces documents assez exceptionnel par certains aspects.
Anne Kropotkine, on en parlait avec vous au début de cette émission à travers la démarche artistique de l'association Micro-Sillon. Le regard que les jeunes portent aujourd'hui, quand ce travail a été proposé de mettre en son les témoignages conservés aux archives de cette période, quel intérêt ça a suscité auprès de celles et ceux qui s'y sont impliqués? Comment ça s'est passé?
Je veux dire, ceux qui ont participé à la création,
oui.
Les
tout à
les
fait.
Jeunes,
les
etc.
jeunes, voilà.
En tout cas, bon, il y a des très très jeunes dans cette, qui ont joué des jeux de guerre, en fait. Donc il n'y avait aucun souci à ce qu'ils jouent des jeux de guerre, mais en même temps,
des voix d'enfants,
voilà,
c'est vrai.
Ils ont été complètement impliqués ensuite dans l'écoute hein, de ce travail et n'étant pas du tout indifférents, loin de là. Aussi, un travail aussi pour les parents, d'ailleurs, c'était intéressant de voir l'intérêt.
Transmission générationnelle.
La transmission
là.
Générationnelle. Et puis pour ce qui est de la plus grosse, celle qui lit la lettre à son papa, en fait. Alors là, c'était une petite fille extrêmement férue de la Première Guerre. Elle a 8 ans, mais elle connaissait tout sur la Première Guerre. Elle propose même à son père des voyages sur les lieux de mémoire de la guerre, que ce soit la Première ou la Seconde. Donc c'est pour vous dire qu'elle était très impliquée.
Atypique.
Assez atypique, mais en tout cas, elle a fait un jet. D'ailleurs, c'était un seul jet. On l'a enregistré en une fois. Ce qui était complètement... Donc elle était très, très impliquée dans la chose. Mais après, je pense qu'en effet, c'est pas seulement les enfants, mais c'est ce rapport, comme vous dites, assez intime à l'archive. C'est Arlette Farge hein, qui a beaucoup travaillé là-dessus en tant qu'historienne. Mais c'est ce rapport là qui peut être transmis par le son, qui est quand même assez fort et émotionnel. Et je pense que, qu'en effet, cela fonctionne chez les enfants, mais aussi chez les adultes.
Voilà, c'est une autre manière de transmettre l'histoire et de faire passer cette mémoire dont nous avons tous besoin, 100 ans après les faits. Yann Lagalec, mille merci d'avoir répondu à nos questions. Anne Kropotkine, merci également. On peut retrouver peut-être ces sons sur un site.
Oui, alors j'ai même oublié de dire le titre. Hein, ça s'appelle tout simplement Les sons de l'arrière et c'est disponible dans l'audiothèque de Micro-Sillon. Donc voilà, sur Internet.
Et ça a habillé tout le long de notre émission.
Voilà, par des petits extraits.
Merci beaucoup, Xavier, également à vous aussi.
À très bientôt.
On se retrouve le mois prochain pour Chercheur.
Avec grand plaisir. Merci à tous.
Guéguin Auguste, mort pour la France. Hamon Marcel, mort pour la France. Keravel Émile, mort pour la France. Le Foll Jean, mort pour la France. Mont Germont Louis, mort pour la France. Pellerin Eugène, mort pour la France. Quinton Ambroise, mort pour la France. Ruelle Victor, mort pour la France. Texier Julien, mort pour la France.